Chapitre 9. Les 39 marches. C'est absurde, déclara le chef de l'amirauté. Sir Walter se leva et quitta la pièce, nous laissant le regard perdu. Il revint au bout de 10 minutes, l'air atterré. Je viens de joindre Lord Alloa, dit-il. Je l'ai fait sortir du lit. Il était de fort mauvaise humeur. Il est rentré directement après avoir dîné chez Melrose. Mais c'est du délire, interrompit le général Winstanley. Vous voulez me faire croire que cet homme qui est venu ici est resté assis là, à côté de moi, pendant une bonne demi-heure, sans que je m'aperçoive de la supercherie? Il me semble plutôt que Lord Alloa n'a plus toute sa tête. Je pris la parole. Ne voyez-vous pas de quelle habileté ils sont capables? Vous étiez tous trop occupés à autre chose pour y voir clair. L'identité de Lord Alloa allait de soi pour chacun de vous. S'il se fût agi de quelqu'un d'autre, vous l'auriez probablement regardé avec plus d'attention, mais sa présence à lui était si normale que cela vous a aveuglé. Et c'est alors que le français s'exprima, très posément et dans un bon anglais. Ce jeune homme a raison. Son analyse est pertinente. Nos ennemis ont œuvré avec beaucoup d'habileté. Il pencha sur l'assistance son front pensif. Permettez-moi de vous raconter une anecdote. Elle s'est passée au Sénégal il y a longtemps. J'étais cantonné dans un trou et pour me distraire, j'avais pris l'habitude d'aller pêcher dans une rivière où abondent de gros barbeaux. Une petite jument arabe, de cette race originaire des dunes salines que l'on trouvait naguère à Tombouctou, transportait habituellement mon panier à provisions. Eh bien, un matin, alors que je faisais une bonne pêche, la jument se montra curieusement agitée. Je l'entendis hennir, se plaindre et marteler le sol. De la voix, je la calmai tout en continuant de pêcher. Je croyais toujours la surveiller du coin de l'œil, attachée à un arbre à environ 20 mètres. Après un bon moment, j'eus envie de manger quelque chose. Je regroupai ma pêche dans un sac en toile de bâche et revins vers la jument en traînant ma ligne. Arrivé près d'elle, je jetai le sac sur le dos de la jument. Il s'interrompit et nous regarda. Ce fut l'odeur qui m'alerta. Je tournai la tête et vit à 3 pas de là un lion qui me fixait. Ce vieux dévoreur d'hommes, terreur du village. De la jument, il ne restait plus qu'un amas sanguinolent d'os et de peau qu'il gardait derrière lui. « Qu'est-ce qui s'est passé ? » demandai-je, car étant chasseur moi-même, je pouvais discerner l'authenticité d'une histoire. Je le tenais à distance avec ma canne à pêche, et j'étais armé d'un revolver. Grâce au ciel, mes serviteurs arrivèrent à ce moment avec leurs fusils. Mais le lion m'a laissé sa signature. Et il brandit sa main où 3 doigts manquaient. « Pensez-y, dit-il. » La jument était morte depuis un moment, et le fauve n'avait cessé de me surveiller depuis lors. Habitué à l'agitation de ma bête, je n'avais pas fait plus attention que cela à sa mise à mort. Je ne me rendais pas compte de sa disparition, car je l'apercevais comme une tache fauve au coin de l'œil, et le lion en tenait lieu. Eh bien, messieurs, s'il me fut possible d'être abusé de la sorte dans un pays où tous nos sens sont en alerte, pourquoi les citadins inattentifs que nous sommes ne serions-nous pas également trompés? Sir Walter acquiesça. Personne ne songeait à le contredire. Mais je ne comprends pas, reprit Winstanley. Leur but est bien d'obtenir ces renseignements à notre insu. Pour révéler la supercherie, il suffisait que l'un de nous aborde avec Lord Halloa notre rencontre de ce soir. Sir Walter eut un rire bref. Ce choix d'Halloa démontre leur intelligence. Lequel d'entre nous serait allé lui reparler de ce soir? Et lui-même serait-il revenu sur le sujet? En effet, le premier lord de la mer était connu pour son caractère bourru et taciturne. Le général le reprit. Reste à savoir en quoi le fait qu'il ait participé à notre réunion avantage notre espion. Il ne peut garder en mémoire plusieurs pages de schémas et de noms étrangers. Ce n'est pas si difficile, rétorqua le Français. Un bon espion s'exerce à posséder une mémoire photographique, à l'instar de votre Macaulay. Souvenez-vous, il n'a rien dit, mais n'a cessé de parcourir méticuleusement les documents à plusieurs reprises. Nous devons admettre, je crois, qu'il a tout gravé dans sa mémoire. Quand j'étais plus jeune, c'était un tour de force dont j'étais capable. Sir Walter dit avec tristesse. Eh bien, dans ce cas, je crois qu'il ne nous reste plus qu'une chose à faire, c'est de changer nos plans. Whittaker semblait fort sombre. Il demanda. Avez-vous dit à Lord Halloa ce qui s'est passé? Non? Eh bien, je ne peux l'affirmer de façon catégorique, mais je crains que l'on ne puisse apporter de changements significatifs. À moins de modifier la topographie de notre littoral. Je dois vous dire autre chose, ajouta Royer. J'ai parlé librement devant cet homme. J'ai donné quelques informations sur les dispositions militaires de mon gouvernement, comme je suis autorisé à le faire. Ces informations sont inestimables pour nos adversaires. Non, mes amis, je ne vois qu'une seule solution. L'homme qui était parmi nous, ainsi que ses complices, doivent être arrêtés sans délai. Bon Dieu, m'écriai-je, mais nous n'avons pas l'ombre d'un indice. En outre, fit Whittaker, il y a la poste. À l'heure qu'il est, les renseignements doivent être transmis. Non, rétorqua le Français, vous méconnaissez les habitudes d'un espion. Il reçoit son dû en personne et il remet en personne ses renseignements. En France, nous ne connaissons que trop bien cette espèce. Il nous reste une dernière chance, mes amis. Ces individus doivent transiter par la mer. Que l'on surveille les ports et qu'on fouille tous les navires. Croyez-moi, c'est une situation vitale pour la France comme pour l'Angleterre. Le solide bon sens de Royer nous réconforta. Au milieu de l'indécision, il représentait l'homme d'action. Mais je ne voyais pas d'issue à la situation. Comment pouvions-nous, parmi les 50 millions d'habitants de nos îles, et en moins de 12 heures, mettre la main sur les 3 canailles les plus habiles d'Europe? Tout à coup, il me vint une idée. Je lançai à Sir Walter. Où est le calepin de Scudder? Je me souviens de quelque chose qu'il avait noté. Vite, donnez-le-moi. Il ouvrit un pupitre fermé à clé et me tendit le calepin. Je retrouvai l'endroit et lus 39 marches. Je répétai. 39 marches. Je les ai comptées. Marée haute à 22h17. L'homme de l'amirauté me regardait comme si j'étais devenu fou. « Ne comprenez-vous pas que c'est un indice ? » m'écriai-je. « Scudder connaissait le repère de ces gens. Il a gardé pour lui le nom de l'endroit, mais il savait par où il quitterait le pays. C'est demain le grand jour, Et à cet endroit, la mer sera haute à 22h17. Ils seront peut-être partis ce soir, dit quelqu'un. Sûrement pas. Ils ne vont pas se presser quand ils peuvent compter sur un bon petit plan secret. Je connais les Allemands. Ils ne savent pas travailler sans que tout soit planifié. Où diable peut-on se procurer un annuaire des marées? Whittaker reprit courage. Saisissons notre chance, fit-il. Filons à l'amirauté. Nous nous précipitâmes dans deux des autos qui attendaient, à l'exception de Sir Walter, qui se rendit à Scotland Yard pour mobiliser MacGillivray, comme il dit. Après avoir parcouru d'interminables corridors et des pièces désertes où s'affairaient les femmes de ménage, nous arrivâmes enfin à une petite salle remplie de livres et de cartes. On dénicha le préposé, qui tira aussitôt de la bibliothèque l'annuaire officiel des marées. Je m'installai au pupitre, entouré de mes compagnons, car j'avais en quelque sorte pris le commandement de l'expédition. Damnation! Il y avait des centaines de rubriques, et autant que je pus voir, 22h17 s'appliquait à une cinquantaine d'endroits différents. Il fallait trouver un moyen de réduire le champ de nos investigations. Je pris ma tête entre les mains pour tenter de me concentrer. Il devait y avoir un moyen de solutionner cette énigme. Que voulait dire Scudder avec ses 39 marches? Je songeais à des marches de quai. Mais s'il s'agissait de cela, il n'aurait pas mentionné leur nombre. Il devait s'agir d'un endroit comportant plusieurs escaliers, dont l'un se différenciait des autres par le fait de posséder 39 marches. Tout à coup, il me vint une idée, et je me mis à rechercher tous les départs de paquebots. Aucun ne partait à 22h17. Pourquoi la marée haute revêtait-elle autant d'importance? S'il s'agissait d'un port, ce devait être un petit port où l'on devait compter avec la marée. Ou alors il s'agissait d'un navire à gros tirant d'eau. Mais aucun vapeur de service régulier ne partait à cette heure-là. Et d'ailleurs, je ne pouvais imaginer qu'ils emprunteraient un grand navire quittant un port régulier. Donc il s'agissait d'un petit port où la marée prenait son importance. Peut-être même n'y avait-il pas de port du tout. Mais dans le cas d'un petit port, je ne voyais pas ce que les marches signifiaient. Aucun port, à ma connaissance, ne présentait une série d'escaliers. Ce devait être plutôt un endroit qui se caractérisait par un escalier déterminé, et où la mer serait haute à 22h17. En définitive, il m'apparaissait que cet endroit devait être un point quelconque de la côte. Mais cette question d'escalier continuait à m'embarrasser. J'en vins ensuite à des considérations plus générales. D'où y avait-il une probabilité qu'un homme parte pour l'Allemagne, un homme pressé, désireux de faire une traversée rapide et discrète? Sûrement pas d'un grand port, pas plus que des côtes de la Manche, de l'Ouest ou de l'Écosse, car, on s'en souvient, cet homme partait de Londres. Je mesurai les trajets sur la carte et m'efforçai d'entrer dans la tête de mon adversaire. À sa place, j'aurais gagné Ostende, Anvers ou Rotterdam, et j'embarquerai à partir d'un point de la côte est, entre Cromer et Douvres. Toutes ces conjectures demeuraient très vagues, et je ne prétends pas qu'elles fussent ingénieuses ni scientifiques. Je n'avais rien d'un Sherlock Holmes, mais je me reconnais volontiers une sorte d'instinct pour les questions de ce genre. Je ne sais si je me fais bien comprendre, mais je m'efforçais d'abord d'obtenir la solution par tout ce que le raisonnement pouvait me fournir. Quand je me trouvais dans une impasse, je m'en remettais à mon instinct, et mes intuitions étaient généralement avérées. Je griffonnais donc toutes mes déductions sur une feuille de papier de l'amirauté. Voici ce qui en résultait. Certitude. Petit 1, un endroit où il y a plusieurs escaliers. L'un d'eux se distingue par le fait qu'il compte 39 marches. Petit 2, la marée est haute à 22h17. L'appareillage n'est possible qu'à marée haute. Petit 3, les marches ne sont pas celles d'un quai. L'endroit n'est donc probablement pas un port. Petit 4, aucun navire de ligne régulière ne part à 22h17. Le navire doit donc être un caboteur, peu probable, un yacht ou un bateau de pêche. Mes déductions s'arrêtaient là. Je dressais une autre liste et, bien que l'intitulant « hypothèse », je lui donnais le même poids que l'autre. Hypothèse. Petit 1, l'endroit n'est pas un port, mais une côte ouverte. Petit 2, un petit bateau, un chalutier, un yacht ou une chaloupe. Petit 3, quelque part sur la côte est, entre Cromer et Douvres. Il m'a paru singulier de siéger devant ce bureau en compagnie d'un ministre, d'un amiral de l'armée britannique, de deux hauts dignitaires du gouvernement et d'un général français m'efforçant d'extraire des gribouillis d'un homme mort un secret capital pour nous. Sir Walter nous avait rejoints et MacGillivray ne tarda pas à le suivre. Il venait de donner des ordres pour faire rechercher, dans les ports et les gares, les trois hommes dont j'avais donné le signalement à Sir Walter. Pas plus que les autres, toutefois, il n'était convaincu que cela puisse servir à grand-chose. « Voici tout ce que je peux en tirer, dis-je. Nous devons découvrir un endroit de la côte où plusieurs escaliers descendent vers la plage. L'un de ces escaliers doit avoir 39 marches. Ce lieu semble situé sur une côte ouverte, aux falaises assez élevées, quelque part, entre le Walsh et la Manche. De plus, à cet endroit, la marée sera haute demain à 22h17. Puis une idée me vint. J'ajoutai, « N'y a-t-il pas un inspecteur des gardes-côtes ou un de ses collègues qui connaissent la côte est ?» Whittaker en connaissait un qui habitait à Clapham. Il partit en auto le chercher, et nous restâmes dans la petite salle à l'attendre, en parlant de tous ces événements. J'allumai une pipe et repassai dans ma tête tous les éléments du puzzle, au point d'en avoir mal au crâne. Vers 1h du matin, l'homme des gardes-côtes arriva. C'était un beau vieillard qui ressemblait à un officier de marine et qui montrait un respect excessif envers les personnes présentes. Je laissai le ministre de la guerre l'interroger lui-même, car je sentais qu'il me trouverait bien impertinent de parler le premier. « Nous aimerions que vous nous disiez quels sont les endroits de la côte est que vous connaissez, où l'on trouve des falaises et où plusieurs escaliers descendent sur la plage. » Il réfléchit un instant. « De quel genre d'escalier parlez-vous, monsieur ? Il existe beaucoup d'endroits où des chemins sont taillés dans la falaise, et beaucoup de ces chemins comprennent quelques marches. Ou voulez-vous parler d'escalier ordinaire, d'escalier tout en marche, si l'on peut dire ? Sir Walter se tourna vers moi. « Nous parlons d'escalier ordinaire, dis-je. » Il réfléchit une minute ou deux. « Il me semble que je n'en connais pas. Mais attendez un instant. Il y a un endroit du Norfolk, Brattlesham, auprès d'un terrain de golf où se trouvent des escaliers pour permettre aux joueurs d'aller chercher des balles perdues. Ce n'est pas cela, dis-je. Il y a ensuite beaucoup d'esplanades nautiques. C'est peut-être ce que vous voulez dire. Chaque station de bain de mer en possède. » Je fis un signe négatif. « Ça doit être plus isolé que cela, dis-je. » « Ma foi, messieurs, je ne vois rien d'autre. » « Bien sûr, il y a le Rough. »« Qu'est-ce que c'est ? » demandai-je vivement. « C'est un grand promontoire de craie dans le Kent, tout près de Bradgate. On a bâti dessus tout un tas de villas, et certaines ont des escaliers qui accèdent à une plage privée. C'est un endroit tout à fait distingué, et ceux qui y résident apprécient de rester entre eux. » J'ouvris en toute hâte l'annuaire des marées et trouvai Bradgate. La marée haute était prévue pour le 15 juin à 22h27. « Nous voilà enfin sur la piste, » m'écriai-je avec animation. « Comment puis-je savoir l'heure de la marée au Rough ?»« Je vais vous le dire, monsieur, » fit l'homme des gardes-côtes. « Une fois, j'ai occupé une maison là-bas dans ce même mois, et je sortais chaque soir pour aller pêcher en mer. La marée y est de 10 minutes en avance sur Bradgate. » Je refermai le livre et regardai mes compagnons. « Messieurs, leur dis-je, si l'un de ces escaliers possède 39 marches, nous avons résolu notre énigme. Sir Walter, pouvez-vous me prêter votre voiture ainsi qu'une carte routière ? Si M. McGillivray veut bien m'accorder 10 minutes, nous pourrons combiner quelque chose pour demain. » Je sentais le ridicule de prendre ainsi la direction des opérations, mais ils ne semblèrent pas s'en affecter. Et après tout, c'est moi qui avais ouvert le bal. D'ailleurs, j'étais coutumier des entreprises périlleuses, et ces éminents personnages étaient trop avisés pour ne pas s'en apercevoir. Ce fut le général Royer qui me donna tout pouvoir. « Pour ma part, » dit-il, « je m'en remets volontiers à M. Haney. » À 3h30, entre les haies du Kent, sous le clair de lune, je filai à toute allure en compagnie du meilleur policier de McGillivray, assis sur le siège à côté de moi.